On va lire quelques versets pour se remettre un contexte. On va poursuivre sur cette réalité de bâtir, hein, de bâtir avec Jésus. Jésus bâtit avec nous également notre vie. Il construit. On se rappelle que la semaine dernière, on avait parlé bien que pour bâtir, il fallait bien sûr instruire, il fallait parfois détruire, et puis bien sûr construire. Et puis sur ce même thème, eh bien on va continuer dans le livre de Néhémie, puisque Esdras et Néhémie, hein, sont deux livres, vous le savez, qui nous parlent de reconstruction, reconstruction de l'autel, reconstruction du temple, reconstruction des murailles, mais reconstruction aussi spirituelle du cœur du peuple de Dieu. Et on va ce matin, à travers eh bien quatre personnages, nous rappeler également de quelle manière Dieu veut nous encourager dans cette année à persévérer, à bâtir, le laisser bâtir bien sûr notre vie, mais aussi bâtir son royaume autour de nous, partager cette bonne nouvelle, la vivre. Alors dans Néhémie, au chapitre 2, verset 11, il est dit ceci, « À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours. » C'est Néhémie, hein. « Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc la nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches, ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesse d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exercent une responsabilité. Je leur alors dis, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail, et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision, dans cette bonne résolution. Voilà, si on cherchait une bonne résolution pour l'année 2026, en voici une. Hein, donc, levons-nous, et puis bâtissons. Levons-nous et continuons à construire avec le Seigneur. Levons-nous et que le Seigneur continue à construire avec nous, construire en nous. Ça, c'est une bonne résolution, c'est une prière que je sais que vous faites, eh bien, depuis pratiquement le début de notre conversion, hein, on l'a fait cette prière, Seigneur continue à me construire. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, hein, eh bien on sait que le peuple d'Israël a été exilé, mis en captivité en -586, c'est assez précis, hein, les historiens ont retrouvé des dates précises avec les chronologies, et puis ils sont partis en captivité bien sûr à Babylone. Et puis, il y a eu un miracle de Dieu extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le roi de Perse, Cyrus, a conquis Babylone, a conquis cette ville, et là, en -538, c'est encore très précis, eh bien, le roi de Perse, un certain Cyrus, va devenir un instrument entre les mains de Dieu, d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Hein, c'est un roi païen, impie, qui adore d'autres dieux, il y a un autre contexte religieux, mais quand on lit Esdras, au chapitre 1er, versets 1 à 4, on se rend compte là aussi bien que Dieu, finalement, élève, abaisse, qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pas un problème pour Dieu. Et là, dans Esdras, au chapitre 1er, versets 1 à 4, il est dit ceci, « La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même. Hein, cette parole du roi Cyrus qui prend conscience que même s'il n'adore pas le Dieu vivant et vrai, eh bien malgré tout, Dieu l'a choisi pour. C'est quelque chose qui dépasse notre conscience, mais qui est une réalité. Qui parmi vous fait partie de son peuple? C'est lui, le roi impie Cyrus, qui interpelle le peuple de Dieu. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Et l'ordre ici de Cyrus est clair, hein? Eh bien, qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est le point de départ, bien sûr, hein, non seulement pour le retour des exilés dans le pays, mais surtout pour la reconstruction du temple. On commence par l'autel, on commence par le temple, etc. Il y aura des interruptions, et puis on termine avec Néhémie, avec les murailles. Alors, juste pour nous rappeler quand même, avant de parler de ces quatre hommes qui ont été entre les mains de Dieu des instruments de bénédiction pour la reconstruction, le point de départ de cette reconstruction. Le point de départ. On a lu ceci, Esdras 1:1. Il n'y a pas mieux comme point de départ. La première année du règne de Cyrus, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est un roi impie, roi de Perse. Esdras 1:5. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les prêtres, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Tous ceux dont Dieu dont réveilla l'esprit se levèrent pour reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Le point de départ de cette reconstruction, c'est d'abord un réveil de la conscience par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va réveiller la conscience de ce roi, de ses gouverneurs, de ses prêtres, etc. C'est Dieu. Et la conscience ici va être réveillée. La conscience que notre existence ce matin dépend complètement de Dieu. Cyrus le confesse. Il dit bien, c'est le Dieu du ciel d'Israël qui m'a donné de pouvoir gérer ses royaumes. Et il y a une conscience là aussi d'un Dieu qui est grand. Il y a la conscience, bien sûr, qu'étant le peuple de Dieu, eh bien, nous sommes appelés, le peuple d'Israël était appelé à bâtir avec lui son royaume. Cette conscience là aussi qu'on a une mission. Il y a quelque chose que Dieu désormais nous a confié. Acte 1:5. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Alors, on parle beaucoup de réveil, on y aspire, bien sûr, hein, bien entendu. On prie pour qu'il y ait un réveil, mais d'après ces textes et d'autres, le réveil auquel on aspire, c'est d'abord un réveil de notre conscience, de notre âme, de notre esprit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et j'oserais dire ce matin, laissons-nous réveiller. Je ne sais pas comment vous êtes quand on vous réveille, on vous prend au saut du lit ou on vous réveille, vous n'avez pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Il y a certainement des grincheux, hein, qui disent, mais laisse-moi dormir. Il y en a d'autres peut-être qui sont de bonnes pattes, ils disent, bon, faut se lever, etc. Hein, vous vous souvenez quand il fallait réveiller les enfants pour aller à l'école, ce n'était pas toujours facile, etc. Il y a un exemple, c'est quand Pierre est en prison. Dans Acte 12, hein, il est dit qu'il est en prison, il va être jugé le lendemain. Mais Pierre apparemment dort paisiblement, encadré par des gardes. Et là, il y a un ange qui va venir le réveiller. Et pour le réveiller de son bon sommeil, il est obligé de le frapper. Obligé de le frapper, de le secouer un bon coup. Parce qu'autrement, Pierre ne serait pas réveillé. Et je pense que, eh bien, ce matin, le Seigneur, de temps en temps, a besoin vraiment de nous secouer, de nous réveiller. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir plusieurs attitudes. On peut se retourner, dire, Seigneur, laisse-moi encore dormir. Je suis si bien. Voilà, j'ai ma vie chrétienne avec toi qui me va bien. C'est pas la peine de me secouer comme ça. Et puis, y a peut-être des moments où vraiment Dieu va insister pour qu'on se lève et puis qu'on continue à bâtir, à se laisser construire. En tout cas, tout Toute reconstruction, toute construction commence par un réveil de notre conscience. Et c'est Dieu bien sûr, qui va susciter ce réveil à nous de nous laisser réveiller par le Seigneur. Alors on va voir quatre hommes dont l'esprit va être réveillé par le Seigneur de la même manière, et quatre hommes que Dieu va utiliser pour la reconstruction donc de l'autel, du temple, et puis des murailles et du cœur aussi de d'Israël. Les deux premiers s'appellent Zorobabel et puis Josué. Souvent, on oublie Josué. On dit c'est le premier temple, c'est le temple de Zorobabel, parce qu'il est parfois mis en avant, mais Esdras 2, 1-2 nous dit ceci. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem en Juda, chacun dans sa ville, ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie. C'est pas le même, hein. Néhémie, c'est un autre Néhémie, Seraja, etc., etc. Et puis, il y a d'autres textes, hein. Esdras 3, 2. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, accompagné de ses frères, reconstruire l'autel, etc., etc. Et puis dans Esdras 3, 8, il est dit ceci, et âgé, l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, l'esprit du grand prêtre Josué. Eux aussi, eh bien, leur esprit vont être réveillés. Et donc, eux font partie de la première vague. On est en moins 538. Dès que Cyrus a édité ce décret, eh bien, ils vont partir, donc, retourner à Jérusalem. Alors, on va à chaque fois bien prendre la signification du nom de ces quatre hommes et puis nous rappeler là aussi de quelle manière Dieu veut nous utiliser, comment il veut nous aider nous aussi à bâtir et à construire. Alors Zorobabel, j'ai toujours trouvé que c'était un drôle de prénom, moi, Zorobabel. Hein, bon, ça fait un petit peu étonnant, quoi. Zorobabel, ça veut dire le rejeton de Babylone ou né à Babel. Voilà. Hein, ce rejeton de Babylone né à Babel. Cet homme est donc né en captivité. Il est né à Babylone et il ne connaît que cette culture de Babylone. Il ne connaît que cette religion de Babylone. Il ne connaît que l'instruction à Babylone. Il est né donc sur le sol de Babylone. D'ailleurs, on va le dire, ben voilà, tu t'appelleras Zorobabel, rejeton de Babylone né de Babel. Et finalement, on vous rappelait quand même que Babylone, à l'époque, c'est considéré comme une des sept merveilles du monde. Hein. Les jardins suspendus, enfin, c'est une ville magnifique, avec un roi qui avait un orgueil démesuré, ça on le connaît également. Et on se dit que eh bien, cet homme aurait pu rester dans cette masse culturelle, religieuse, et puis vivre sa vie comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas oublier qu'il est de lignée royale. Parce que Zorobabel, même s'il est né hors Israël, même s'il est né sur le sol de Babylone, même s'il est né dans la culture de l'époque, il est quand même le petit-fils de Jéconias, le roi de Juda. Et Dieu ne va pas oublier sa lignée royale. Zorobabel aurait pu sombrer dans la religion païenne, occulte de Babylone, mais Dieu avait un autre dessein pour lui. Dieu avait un autre dessein pour lui. Dans Agé 2.23, il est dit ceci, ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai Zorobabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié que tu es de lignée royale. Je n'ai pas oublié que tu avais un service. Là aussi que tu allais vivre dans ma présence. Et ce matin, bien rappelons-nous que nous sommes aussi comme Zorobabel. On est appelé à bâtir son royaume parce que nous sommes le choix de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes le choix de Dieu. Alors, quelle que soit notre origine ethnique, culturelle, sociale, quelle qu'était notre éducation, heureuse ou malheureuse, quelle qu'était nos croyances de départ, quelles que soient nos expériences, eh bien, nous avons été choisis par Dieu, choisis de Dieu comme Zorobabel pour le Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous encourager par rapport à nos enfants, nos familles, nos arrière-petits-enfants. Ils vivent dans une société qui est de plus en plus anxiogène, impie, immorale. C'est ce que décrit. Et on pourrait se dire, eh bien, ils vont être noyés comme Zorobabel aurait pu l'être dans cette civilisation babylonienne, qui n'avait rien, rien du tout de sainte. Mais Dieu les avait choisis. Dieu avait choisi. Né dans le péché, ce matin, il nous en a extirpés. Parce qu'il nous a choisis en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, vous rappelez, hein, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Zorobabel, né à Babylone, le rejeton de Babel, eh bien, aurait pu avoir sa vie là aussi complètement imbriquée dans cette religion, dans cette culture, mais Dieu l'a extirpé pour en faire un instrument de reconstruction. Et c'est Zorobabel qui a été habitué aux festivités, aux orgies de Babylone, aux faux autels. C'est lui qui a eu le privilège de poser le fondement de l'autel, de reconstruire, d'être le point de départ, Zorobabel avec Josué. Et ce matin, plaise à Dieu que nous soyons des points de départ pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui nous côtoient, des points de départ pour qu'eux aussi puissent construire leur vie sur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2,9 nous rappelle qu'il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Zorobabel. Voilà ce que le Seigneur a fait avec Zorobabel. Et puis, Zorobabel n'est pas seul pour commencer. Il est associé à Josué. Alors, Josué, ça, c'est un nom qui est plus courant, hein, bien sûr, en Israël. Il a la même racine, vous le savez, que celle de Jésus. Et ça signifie, lui, l'Éternel est salut. L'Éternel est salut. Et finalement, on se dirait, mais quel événement de la vie de Josué on pourrait associer à ce nom, l'Éternel est salut? Alors, dans Zacharie, contemporain là aussi de Josué, eh bien, il y a cette vision qui nous rappelle, eh bien, que ce matin aussi, Dieu veut construire avec nous. Et voilà ce qu'il est dit dans Zacharie au chapitre 3. Il m'a fait voir le grand prêtre ou le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, Josué est souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute, et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête. Ils ont mis les habits. L'ange de l'Éternel était là. Extraordinaire ce texte, hein, cette vision. Josué, c'est un souverain sacrificateur. Et il est appelé, bien sûr, à porter le peuple devant Dieu. On se rappelle que lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il porte le pectoral avec les 12 tribus d'Israël gravées sur son cœur, hein, qui sont gravées avec des pierres magnifiques étincelantes de différentes couleurs, et puis il les porte sur ses épaulettes. Et c'est le rôle du souverain sacrificateur. Mais Josué se rend compte que, en voulant porter le peuple de Dieu bien lui-même, intérieurement, eh bien c'est un homme pécheur. Et c'est terrible quand nous le réalisons nous-mêmes. D'un côté, il y a la grâce de Dieu qui nous porte à construire, à bâtir, et puis il y a aussi notre conscience, il y a nos chutes, il y a nos erreurs, il y a nos fautes qui sont là, et parfois, bien, on peut être comme Josué, bien, bien mal à l'aise devant cette double réalité. Et Josué, donc, est appelé à vivre la plus haute fonction spirituelle dans la Sainte Alliance, être un souverain sacrificateur. Rappelons-nous, hein, 2 Corinthiens 5, 20 pour nous ce matin. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça vous va comme fonction pour 2026, ambassadeur? Ambassadeur pour Christ, vous vous rendez compte un petit peu? Comme Josué, souverain sacrificateur. Et malgré cette réalité, comme pour Josué, eh bien, Satan continue à nous accusés. Eh oui, de la même manière. Hein, l'exemple de Job, hein, vous rappelez, Satan qui est là et puis qui veut accuser Job, hein, bah, de toute façon, il te sert par intérêt, vous connaissez exactement. Et puis, Apocalypse 12, 10, l'accusateur des frères qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Alors, bon, voilà, c'est pour bien faire comprendre que les accusations de Satan, elles sont perpétuelles, elles sont incessantes. Et je réfléchissais sur les accusations de Satan. Je me disais que finalement, devant Dieu, les accusations de Satan ne sont pas mensongères. Parce que si elles étaient mensongères sur nos vies, devant Dieu, ça ne tiendrait pas comme argument. Dieu connaît. Alors, Satan, eh bien, va dire des vérités à Dieu sur ma vie, sur la vôtre. Regarde ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Regarde ce qu'il pense, ça, c'est pas conforme à ta parole. Et puis, regarde son comportement. Et puis regarde là aussi, etc. Et Satan prend des choses réelles de nos vies pour nous accuser, pour essayer réellement bien que Dieu nous dise, eh bien voilà, tu n'es plus mon enfant, etc. Ce ne sont pas des mensonges parce que le mensonge de Dieu devant Dieu ne tient pas. Donc ce sont des éléments vrais de nos vies qui ne glorifient pas Dieu et que Satan tout de suite amène devant le trône pour dire regarde. Regarde comment il fait, regarde encore ce qu'il dit, regarde ce qu'il pense, etc., etc. Et ce texte nous aide ce matin. Comment Dieu va-t-il réagir? Il y a quelque chose qui est glorieux. Moi, j'aime bien ce texte. Il nous a fait mention de la présence de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel se tenait là. Et dans l'Ancienne Alliance, vous le savez, l'ange de l'Éternel, eh bien, représente la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va prendre la parole. Et c'est lui qui va dire quelque chose d'extraordinaire, là. Enlevez-lui les habits sales. Et puis ensuite, il s'adresse à Josué, le souverain sacrificateur, je t'enlève ta faute, je te mets les habits de fête. Est-ce qu'on peut entendre ce matin Jésus nous dire, bien, je t'enlève ta faute et puis je te mets des habits de fête? Je ne sais pas si vous avez fêté plus ou moins le passage du Nouvel An, etc. Hein? Mais ce matin, Dieu nous regarde et à travers Jésus, on entend la voix de Jésus qui dit bien, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Josué, c'est l'Éternel et salut. L'Éternel salut. Et ce matin, bien, nous pouvons bâtir également. Hein, la Bible nous rappelle que désormais, nous sommes revêtus d'un vêtement de justice. Il y a un beau chant qui nous dit, Jésus ne nous voit plus comme j'étais, mais le Père nous voit à travers les yeux de Jésus. Amen. Il nous voit à travers. S'il n'y avait que ça pour vivre cette année 2026, l'Éternel est salut, on reste les gens les plus heureux sur cette terre. On enlève l'exercice des dons spirituels, on enlève les miracles, on enlève tout ce que vous voulez. Mais on garde l'Éternel est salut. Il m'a sauvé. Et ce matin, bien oui, Satan est là, il m'accuse jour et nuit, etc. Mais la Bible nous dit, que nous avons désormais un avocat auprès de nous, Jésus-Christ le juste. Amen. L'ange de l'Éternel se tenait là. Jésus se tient là ce matin à nos côtés. Et malgré les accusations, ouais, qui sont véridiques, parce que pour moi, une accusation mensongère devant Dieu, ça tient pas. Eh bien, en tout cas, l'ange de l'Éternel, il nous dit bien, j'enlève ta faute, je te mets un habit de fête. L'Éternel est salut. Zorobabel et Josué ont travaillé ensemble à la reconstruction. Et ce matin, bien, nous voulons continuer, oui, à construire, malgré, c'est vrai, nos vies, malgré nos chutes, malgré encore nos pensées. Seigneur, eh bien, je te demande pardon, mais je sais que tu es à mes côtés, tu me pardonnes, et j'avance. Et je suis un instrument de bénédiction. Le troisième s'appelle Esdras. Esdras, hein, donc, il a écrit un... Alors lui, il fait partie de la deuxième vague de retour à Jérusalem. Il retourne en moins 458. Zorobabel, moins 538. Esdras, moins 458. Ça fait combien de différence? Bon, j'ai pris tout mon temps pour calculer, moi. J'avais la calculette, tout. Mais à votre avis? Là, c'est pas évident parce que c'est du moins 538 à moins 458. Qui se lance? Combien? Combien? 20? Non. Un peu plus. Ah oui, c'est pas évident, hein, la gymnastique. On passe de moins 538 à moins 458. Il y a combien d'écart? Combien? 80, exactement. 80. Hein? Non, mais ben, on va dire le hasard fait bien les choses. Hein? C'est enregistré, ça? Oui, parce que si je dis le hasard fait bien les choses et c'est hors contexte, ça peut être mal interprété. Attention. En tout cas, ça fait 80. On ne s'en rend pas compte comme ça. Hein. Mais en réfléchissant, c'est vrai, 80, bien, il y a donc désormais un peuple à Jérusalem, eh bien, qui n'a pas connu l'exil. Ils sont nés, il y a deux générations, on dit une génération, c'est 40 ans. Hein, donc, il y a un peuple qui est tout nouveau. Voilà, etc., qui ne connaît rien du tout à l'exil, qui ne connaît rien à Babylone, etc., etc. Et il va leur falloir accueillir des exilés. Alors, c'est la même famille, hein, c'est des Israélites, on est bien d'accord, mais ces exilés qui viennent depuis Babylone, ils arrivent malgré tout avec une culture, avec peut-être un accent différent, etc., avec des traditions et hérités du royaume de Perse. Je ne dis pas, encore que ce sera vérifié, eh bien qu'ils apportent là aussi un faux culte, mais ils sont imprégnés d'une autre mentalité, d'une autre culture, et il va falloir les accueillir. Et même si à la base ils font partie du même peuple, eh bien il va falloir travailler à vivre ensemble, à bâtir l'unité dans la diversité. C'est un défi également pour nous, dans nos familles, dans l'Église, dans notre nation. Bâtir, construire l'unité dans la diversité, malgré nos différences, malgré parfois bien même des idées qui sont opposées. Et c'est donc Esdras que Dieu va choisir pour cette mission. Alors qui est-il? Qu'est-ce qu'il nous enseigne Esdras? Eh bien, Esdras 7, 6, 10, 11, je ne vais pas relire les textes, mais nous rappelle que finalement, Esdras est un sacrificateur, ok? Mais il est doté surtout d'une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Il a appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner la parole de Dieu. Esdras, ça veut dire secours, secours. Et on peut dire que Dieu va envoyer du secours à son peuple afin que, malgré tant de diversité, tant d'épreuves du passé qui auraient pu diviser, qui auraient pu séparer, eh bien, celui-ci, au contraire, redevienne et reste uni. Redevienne et reste uni. Et pour cela, Dieu va se servir d'Esdras, qui va donc, le scribe, instruit dans la parole de Dieu, qui va la méditer, qui va la vivre, et puis, bien sûr, qui va l'enseigner. On peut dire qu'Esdras, c'est un enseignant. Hein, aujourd'hui, ce serait un pasteur, docteur, enseignant, appelez ça comme vous voulez. Et quand on relit Éphésiens 4, on s'aperçoit par exemple que les ministères sont donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'unité de la foi, à construire ensemble. Alors Esdras, ce matin, nous enseigne donc la force d'étudier, de vivre, de partager la parole de Dieu pour bâtir. C'est une force que Dieu nous donne lorsque nous méditons, lorsque nous vivons, lorsque nous partageons la parole de Dieu pour unir, pour bâtir l'unité dans la diversité. On le sait que Jésus, par sa parole, a toujours été un facteur d'unité. Et pourtant, déjà avec ses propres disciples, il a fallu qu'il gère des conflits, des tensions, des idées farfelues. Seigneur, veux-tu que nous demandions au feu du ciel pour qu'on consume tous les Samaritains? Ils avaient quand même une parole extraordinaire, ces disciples. Moi, j'aime la grande réflexion philosophique. Qui est le plus grand parmi nous? Ah, ça a dû les animer quelques mots, hein. Voilà. Et Jésus il a fallu qu'il soit un facteur d'unité. Même lorsque Judas le trahit, c'est un moment crucial, là aussi difficile. Et Jésus, par sa parole, qu'il a enseignée, qu'il a vécue, a été un facteur d'unité. Je crois que ce matin, eh bien, on réalise, ne serait-ce que au moins dans notre cercle familial, peut-être de travail, on a besoin d'être des facteurs d'unité, de bâtir l'unité malgré la diversité. Et j'oserais dire heureusement qu'on n'a pas tous le même caractère. Déjà, on a du mal avec nous-mêmes, hein, des fois, parfois. Hein. Non? Un petit peu quand même. Hein. Bon, on se dit, mais qu'est-ce que j'étais encore raconté? Qu'est-ce que j'étais dire? Qu'est-ce que j'étais faire? Etc. Et pourtant, eh bien, ce matin, le Seigneur veut nous aider comme Esdras. Secours. Seigneur, secours-moi. Secours-moi par ta parole. Je veux la méditer, je veux la vivre, je veux la partager. quand Esdras, nous étudions, nous partageons cette parole, eh bien, elle devient un facteur, là aussi, qui va nous aider à être des instruments de bénédiction. On est appelé à bâtir l'unité dans nos familles, dans l'Église, je le répète, dans la société. Hein, de plus en plus, on le sait, la société se morcelle. Et parfois, il suffit d'une petite conversation, d'une petite réaction sur un événement, et ça part. Et ça part. Parce que les gens sont à cran, parce que les gens souffrent, bien sûr. Alors que, comme Esdras, on a besoin du secours qui vient d'en haut. Peut-être qu'on vit ça ce matin pour quelques-uns. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Tu vois que je suis pris comme entre deux feux. Et j'ai besoin, là aussi, de ton secours. Pour que, par ta parole, eh bien, je puisse être un instrument d'unité. Ésaïe 55, 11. Ma parole, celle qui sort de ma bouche, ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. Et on peut dire qu'Esdras...